Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Bruno Fourne, bonjour.
Bonjour, Solange Chouchana.
C'est un plaisir de vous recevoir pour nous parler de votre dernier livre qui paraît aux éditions Odile Jacob, Le parfum et la voix. C'est écrit avec Annick Le Guerrer. C'est un livre passionnant par ses références, par son côté novateur. Je crois que c'est la première fois qu'un livre établit un lien entre l'oreille et l'odeur.
Oui, exactement. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus fascinante de ce projet, c'est que personne n'ait vu la profusion d'exemples de synesthésie voix-parfum de l'Antiquité à nos jours. C'est ça le plus troublant, je trouve. À commencer par moi, parce que moi j'ai découvert ça, j'avais une cinquantaine d'années, donc et pourtant je suis un très très grand lecteur, et ça ne m'avait jamais frappé.
Alors, on va juste donner l'explication du mot synesthésie.
Oui. Alors, synesthésie, c'est tout simplement, en l'occurrence, c'est que là on parle de la voix et du parfum, c'est en écoutant une voix, d'avoir en même temps une information olfactive, une sensation olfactive.
Alors, déjà, vous présentez, vous êtes un passionné au service de la maison Max Jacob, l'illustre poète, à Quimper.
J'ai la chance de vivre chez Max Jacob.
Comment cela s'est-il fait ?
Oh, c'est un hasard tout à fait extraordinaire. Un signe comme les aimait d'ailleurs Max Jacob. Il se trouve que j'avais appris par hasard que la maison de Max Jacob avait été vendue et allait être restaurée. Et moi, j'ai voulu absolument faire des photos de l'appartement et de la maison dans son jus, avant toute restauration. Et de fil en aiguille, comme j'avais un fonds littéraire très important, le propriétaire m'a demandé d'habiter dans le lieu, donc j'ai accepté avec enthousiasme, que j'avais évidemment beaucoup d'admiration pour Max Jacob, qui était un découvreur extraordinaire, le découvreur de Picasso, notamment, ce qu'on ne sait pas assez.
Et alors, vous avez parlé d'un fonds littéraire hors du commun. Comment vous l'êtes-vous procuré ?
Ah ben, j'ai eu la chance de milliers d'amitié à 20 ans avec des écrivains tout à fait extraordinaires, de représentants des plus grands courants de littéraires du XXe siècle. J'ai eu la chance de milliers d'amitié avec des écrivains comme Michel Léris, comme Julien Gracq. Je me suis lié d'amitié avec des représentants du nouveau roman, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet. Je me suis lié d'amitié également avec Léopold Sédar Senghor, qui lui représentait la négritude. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de courants littéraires qui sont représentés dans mon fond avec des manuscrits, des correspondances souvent très abondantes. Ce sont des correspondances que j'ai eues, moi, avec ces écrivains.
D'accord.
Voilà.
En tant que...
Donc, évidemment, je n'ai rien jeté, donc j'ai constitué ce fonds littéraire.
Très bien.
Et comme ces écrivains m'envoyaient régulièrement leurs livres, avec de très très beaux envois, je les ai gardés, évidemment.
Vous étiez journaliste, est-ce que vous leur faisiez des interviews ?
Non, j'ai dû leur envoyer une lettre au départ, et je pense qu'ils ont mordu à l'hameçon, pour parler vulgairement, et une amitié s'est nouée assez rapidement, même très rapidement.
Alors,
ce sont des gens que j'ai rencontrés, que j'ai fréquentés par la suite, que j'ai enregistrés également.
Vous avez aussi un fonds d'art contemporain à faire pâlir certains musées nationaux.
C'est surtout que je me suis, là, j'ai, si vous voulez, j'ai eu une inspiration jacobienne dans la mesure où j'ai eu la chance de découvrir des artistes, notamment Jean Julien. Quand je l'ai découvert, il avait 18 ans et maintenant c'est un des artistes les plus exposés dans le monde. Il travaille avec les plus grands médias mondiaux, New Yorker, New York Times, etc. Et c'est un garçon que j'ai découvert.
Mmh. Alors, parlons aussi de Annick Le Guerrer, oui. Qui est docteur de l'université, anthropologue, philosophe, oui. Spécialiste de l'odorat, des odeurs, oui. Et du parfum. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur le parfum, parmi lesquels deux grands classiques, « Les pouvoirs de l'odeur » et, oui. « Le parfum des origines à nos jours » aux éditions Odile Jacob. Alors, est-ce, oui. que les éditions Odile Jacob sont en famille avec Max Jacob ?
Non. Écoutez, c'est possible, mais en l'occurrence, non. Mais ce qui est troublant, c'est effectivement que j'ai écrit ce livre chez Max Jacob et qu'il est publié chez Odile Jacob. C'est assez vertigineux, c'est... Oui, comme raccourci.
Comment s'est faite cette rencontre entre Annick Le Guerrer et vous ? Vous avez dit que vous avez écouté parler à la radio et qu'en l'écoutant, vous avez senti un parfum. Quel parfum ?
Exactement.
Quel parfum avez-vous senti ?
Un parfum floral, à vrai dire. C'est une famille de parfums, le parfum floral. Et donc, comme j'avais la chance de la rencontrer peu de temps après, je lui ai fait part de cette expérience très troublante, extrêmement troublante pour moi. Et elle a trouvé ça enthousiasmant et elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on explore cette nouvelle dimension à la fois de la voix et du parfum.
Alors, c'est un livre qui interroge sur les liens physiques, sensuels, sacré, neurologique, affectif, oui. ou érotique entre, oui. la voix humaine et le parfum odeur.
Oui.
Alors il y a tellement, tellement de connotations, c'est comme vous l'avez dit, je reprends votre mot vertigineux, comme référence, comme relation que vous avez exploité, analysé, référencé avec beaucoup d'érudition finalement.
Oui, c'est à la fois un livre érudit, mais qui parle à tout le monde dans la mesure où il n'y a pas plus familier que le parfum et la voix. Enfin, c'est une expérience qu'on vit à chaque instant. Et je trouvais très beau, effectivement, qu'il y ait cette fraternité entre tous les humains de l'Antiquité à nos jours. Je trouvais intéressant de collecter tous ces exemples souvent magnifiques de synesthésie voix-parfum.
Oui, alors les liens sensuels, on imagine, on comprend. Les liens sacrés, on comprend aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces liens sacrés ? Donc le chant, la musique dans les religions.
Dans toutes les c'est ça qui est absolument frappant. Ah, oui. C'est que dans toutes les traditions religieuses, on trouve cette synesthésie-là, voix-parfum. C'est extrêmement troublant parce que il m'est arrivé d'en parler avec des religieux qui n'en avaient pas conscience. Et c'est précisément ça aussi qui est intéressant. C'est le fait qu'on ne soit pas forcément conscient ou que ça échappe.
C'est-à-dire? Comment est-ce que cela se produit ? Bon, on sait que dans toutes les églises, tous les temples, enfin en général, il y a de la musique, des chants, il y a aussi l'encens, pour les Israélites, il y a des bouquets de senteurs de la menthe oui. que l'on utilise pendant les prières. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien dans les traditions ? Est-ce que c'est, par exemple, l'effet de certains écrits poétiques qui ont imaginé ça et puis après, ces rituels ont été adoptés comme pratiques ? Rabbi Nathan, Une haute autorité judaïque du IIe siècle rapporte que lorsque les prêtres du temple de Jérusalem broyaient les encens destinés à y être brûlés, ils devaient chanter « broie-les bien » parce que les ondes de la voix sont bonnes pour les parfums.
On pourrait considérer les choses de façon très simple au début. C'est que on voit que on sent que voix et parfum sont consubstantiels. C'est-à-dire que, vous verrez, c'est très simple, très simple, enfin les éditeurs comprendront très vite, c'est que les deux sont évanissants, s'envolent, disparaissent, se fondent dans l'air, ont besoin de l'air pour exister. Sans l'air, le parfum et la voix n'existent pas. Donc c'est là qu'on voit à quel point voix et parfum sont consubstantiels, vous voyez.
Et alors là, les liens neurologiques, qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de la science? Que dit la science sur ce lien entre odorat et musique, et audition?
Et audition. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que les travaux scientifiques sont tout à fait récents dans ce domaine-là, et quelquefois, les découvertes ont été faites par accident. Je pense à Daniel Wesson, en 2010, qui a publié une de ses travaux, qu'il a intitulé « Smelling Sounds », c'est-à-dire les sons parfumés, en réalité.
Les sons odorants.
Les sons odorants. Et il se trouve qu'il a montré la convergence sensorielle audio-olfactive dans le tubercule olfactif. Et il a découvert ça par accident. C'est-à-dire qu'il est en train d'étudier l'olfaction chez les rats. Et il était fatigué, il a voulu prendre un café et sa petite cuillère est tombée. Et le son de la petite cuillère a activé la zone dédiée à l'odorat sur son ordinateur, sur ses écrans. Et c'est comme ça qu'il a fait cette découverte-là.
C'est incroyable, c'est que cette cuillère qui tombe, au lieu d'activer le son, la zone de l'audition, de l'oreille, sur l'ordi, a activé la zone de l'odorat.
Oui, et puis il est allé plus loin dans ses recherches-là, et il a constaté que 29% quand même des neurones du cortex piriforme, hein, qui est une partie du cerveau aussi liée à l'olfaction, répondaient au son.
Ah oui.
C'est quand même très 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 important, puisque logiquement, ce n'est pas une zone dédiée à l'audition.
Oui, c'est vraiment incroyable ce pont entre l'odorat et l'audition. Et pourquoi, si c'est si important, vous venez de nous l'expliquer et nous l'acceptons, pourquoi ce tabou par la société autour de ce lien entre l'odorat et l'audition? Qu'est-ce qui explique au niveau de la société?
Oui, et j'en ai parlé à des psychanalystes qui sont d'ailleurs passionnés par ce sujet. Et c'est évident que là, cette inéthylie-là est frappée d'interdits, de tabous, soit parce qu'elle renvoie à la part animale en nous, soit au contraire à la part mystique, vous voyez. Et la part animale, bon, c'est évident. C'est évident.
Alors, comment ça se passe pour le fœtus dans le ventre de sa mère qui entend les bruits filtrés à travers le ventre de sa mère puisqu'elle est à l'intérieur entourée de liquide amniotique, donc il doit avoir une filtration sonore, probablement que des basses. Tous les aigus sont éliminés, sont occultés. Et il y a aussi cette osmose avec ce parfum du liquide amniotique.
Exactement, c'est la première expérience humaine, hein, c'est cette expérience audio-olfactive, effectivement. À tel point que certains chercheurs ont considéré que l'enfant n'avait qu'un seul sens, qui était ambivalent, si vous voulez, qui avait la capacité à la fois d'apprécier l'odeur et le son.
Alors, comment expliquer que ce soit différencié, l'odorat pour le commun des mortels, on sent des choses et on entend d'autres, et il n'y a pas ce pont que vous nous montrez entre l'odorat et l'audition. Pourquoi est-ce que soit ça s'est perdu, soit, de façon plus générale, ça s'est dissocié?
Moi, je pense que ça s'est perdu. Enfin, les faits sont là. Il y a des auteurs qui ont fait cette remarque très juste, c'est que généralement, on n'entend pas les gens parler, on les voit parler. Mm-hmm. Ce qui fait que souvent, c'est à l'occasion d'une conversation téléphonique qu'on entend une voix. Parce que généralement, on voit les gens parler. Et ça, c'est très intéressant, vous voyez. Mm-hmm. C'est très intéressant. Et ça peut expliquer le fait qu'on ne mesure pas, qu'on ne soit pas sensible immédiatement à la voix. On a besoin de passer par la radio ou par le téléphone.
C'est ça, c'est-à-dire que si vous avez une personne à côté de vous qui vous parle, vous n'avez pas forcément cette compétence de sentir le parfum de son odeur. Il faut que ce soit distancié, peut-être transformé par les filtres acoustiques, radio ou téléphone.
Bien, c'est-à-dire que je pense que l'attention est plus aiguisée lorsqu'on entend une voix par téléphone, vous voyez. Elle ne se disperse pas. Mmh. On n'a pas d'autres informations, on n'a que ces informations auditives. Mmh. Alors, c'est ça qui est tout à fait passionnant.
C'est tout à fait passionnant, mais une grande partie de votre livre, Le parfum et la voix, une rencontre inattendue qui vient de paraître chez Odile Jacob, que vous avez écrit avec Annick Le Guerrer. Donc une grande partie de ce livre est consacrée aux perspectives thérapeutiques de l'aromathérapie, de la musicothérapie et de la thérapie vocale sur le stress, l'estime de soi, l'anesthésie pré-opératoire et même le coma. Et ça, c'est tout à fait vrai. J'ai des expériences de personnes qui ont réveillé du coma quelqu'un par quelqu'un qui est proche d'eux, par leur voix, par le parfum qu'elles lui ont fait sentir sous le nez. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette perspective thérapeutique de ce pont entre audition et olfaction?
Oui, on s'est intéressé effectivement à cette dimension thérapeutique, puisque comme on a constaté que que voix et parfum avaient exactement les mêmes effets, on s'est demandé si voix et parfum avaient également les mêmes effets thérapeutiques. Et on s'est aperçu que oui, aux États-Unis et maintenant de plus en plus dans les hôpitaux français, on recourt à la voix et au parfum pour faciliter la sortie du coma, notamment, ou dans les EHPAD pour calmer les patients qui peuvent être difficiles à traiter, qui sont imprévisibles. Hein. Mmh,
mmh. Alors, le parfum et la voix sont de même nature, vous l'avez dit, aérienne, oui. Éphémère, oui. À l'inverse, oui. De la couleur qui est cosmétique et décorative. Alors, il y a, nous l'avons tous lu, ce poème d'Arthur Rimbaud, les couleurs des voyelles.
Là, c'est une synesthésie différente. Hein.
Oui, je parle oui, pour la couleur. Hein.
Oui, ça c'est très différent, mais... vous voyez, pour prendre le couleur voyelle et couleur, couleur et voyelle n'ont pas, par exemple, le même pouvoir d'évocation que la voix et le parfum. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais d'entendre par hasard la voix de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou de sentir son parfum, l'effet est identique. Ce qui n'est pas le cas de la couleur ou des voyelles. Et je suspecte Rimbaud là d'avoir composé un environnement politique très beau, mais qui ne correspond pas forcément à quelque chose de vécu et de réel. Vous voyez, je pense que c'est peut-être...
C'est une dérive d'écriture, quoi. Je souscris à cette thèse.
Oui, oui. Mais La Voix et le Parfum, c'est très différent. C'est très, très différent. Parce que quand je vous parlais du pouvoir d'évocation, c'est extraordinaire.
Mmh. Alors, Le Parfum a deux sollicitations, deux adresses. Adresse dans le sens que l'on s'adresse à quelqu'un. Il y a une adresse physique, par exemple, j'ai un parfum, les autres le sentent et peuvent peut-être m'identifier par rapport à ce parfum. Si j'ai un parfum plus floral, gourmand, etc., c'est mon côté enfantin qui leur paraîtra important dans ma personnalité. Et voilà, tout simplement. Alors que, comme aussi, la voix, c'est une émanation physique qui échappe à la personne et qui va chez l'autre. Donc l'odeur et la voix, ce sont deux manifestations physiques qui nous échappent et qui vont vers l'autre.
Exactement. Et vous voyez qu'ils ont la même destination, qu'ils ont la même vocation. C'est ça qui est fascinant. La voix et le parfum sont le double l'un de l'autre. C'est en ça que c'est extrêmement troublant. Extrêmement troublant.
Alors, vous avez parlé de certaines voix, celles de Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Vous n'avez pas parlé de Eartha Kitt, qui a quand même une voix incroyable et qui, je ne sais pas quel parfum elle peut évoquer. Est-ce que vous avez parlé d'Eartha Kitt? Vous la connaissez peut-être?
Oui, bien sûr.
Et c'est une voix incroyable quand même.
Vous savez, mais j'ai fait une sélection de 2000 voix, mais malheureusement, comme nous avons près de 60 000 références, on ne peut pas tout mettre, évidemment, dans le livre. Il aurait été totalement illisible. Mais j'ai pris des voix types, si vous voulez. Dans le livre, vous verrez, je parle de voix hespéridées, c'est-à-dire, on va dire, agrumes, pour simplifier, jusqu'à des voix plus boisées, des voix plus graves, comme celle de Lorraine Bacall ou de Jane Fonda, par exemple. Là, je pense que ce sont des voix qui parlent à tout le monde.
On voit très Barry bien... White aussi.
Barry White, oui. On voit très bien que Jean Dormesson et Barry White n'appartiennent pas à la même famille de voix, vous voyez.
Et alors, qu'est-ce que vous sentez lorsque vous écoutez la voix de Barry White? Qu'est-ce que vous sentez comme arôme, comme parfum, comme odeur?
Oh, je dirais cuir, boisé, du bois, vous voyez.
Oh, presque un aftershave.
Oui, mais vous savez que quelquefois, ça m'est arrivé pour la fondatrice de l'agence de prospective Nelly Rodi, il se trouve que quand j'entends sa voix, je sens un parfum qui n'existe pas, un parfum de Lancôme, un parfum pour homme, qui s'appelait Balafre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'entends sa voix, je sens ce parfum. Je dirais que c'est presque une voix parfum ready-made, comme aurait dit Duchamp. C'est-à-dire que c'est tout prêt. Je n'ai même pas besoin d'analyser la voix. J'ai même un nom de parfum, une marque, etc.
C'est un effet peut-être culturel. Ça me semble un peu incroyable. Pas incroyable, mais difficile à recevoir le fait que vous écoutiez une voix et que vous sentiez un parfum qui a déjà été créé, donc une somme, une composition personnelle, commerciale.
Je suis bien d'accord avec vous.
Oui.
J'ai eu un échange justement chez Nelly Rodi la semaine dernière. J'étais avec les représentants des plus grandes maisons de parfums. J'étais avec des gens de Chanel notamment. Et j'ai osé dire que pour moi, le numéro 5, c'était moins Marilyn Monroe que Marlene Dietrich, par exemple. Je trouve que la voix de Marlene Dietrich évoque bien davantage et plus proche du numéro 5 que la voix de Marilyn Monroe, qui est beaucoup plus enfantine.
Alors, si je vous suis, vous pourriez être un nez et créer des parfums de façon assez douée et assez plus facile que les autres, vu que vous entendez une voix. Vous entendez ma voix peut-être, et vous imaginez un parfum, une odeur.
Oui, je pense que ce serait intéressant aussi pour les parfumeurs d'élargir leur champ d'inspiration. C'est aussi le but du livre, même s'il n'est pas du tout réservé aux parfumeurs. Hein. Les psychanalystes, les scientifiques peuvent s'en emparer. Mais en l'occurrence, puisqu'on parle de parfum, je crois effectivement que ça pourrait être très inspirant pour les parfumeurs. Mais ça a déjà été fait, hein, mais de façon épisodique. Par exemple, Allure sensuelle de Chanel, hein, qui a été composée par Jacques Polge. Jacques Polge s'est inspiré de la voix d'Anna Mouglalis, la voix très grave d'Anna Mouglalis. Mmh. Les Guerlains, tous les Guerlains se sont inspirés de la voix de cantatrice, se sont inspirés d'opéra, vous voyez. Donc, malgré tout, ce ne sont pas des univers étrangers l'un à l'autre, puisqu'on trouve qu'il y a des exemples de très très grands parfumeurs qui sont inspirés des voix. Eh bien, j'ai commencé à faire des recherches, moi, qu'elles s'imposaient, hein, parce que on est parti de rien. Aucun livre n'a jamais été écrit sur ce thème-là. C'est ça qui est extraordinaire. Même pas la moindre notule, rien. J'ai essayé de constituer déjà un corpus intéressant. Et une fois que je l'ai constitué...
Un corpus de quoi? De voix que vous avez...
De références littéraires, sacrées, scientifiques, etc. Et j'ai soumis ça à Yves Le Guerrer, et à partir de là, on a commencé à échanger les différentes étapes du texte. C'est-à-dire que le texte a fait la navette entre nous deux.
Mmh. Et vous avez travaillé chacun un chapitre. Comment ça s'est mixé? Parce que c'est comme en musique, il y a un mixage. Il y a chacun sa partition, puis vous faites un mixage.
Oui, puis je vous dis, il y a eu ce travail de navette. Comme dirait Montaigne, on voit plus la couture, si vous voulez. Mmh. Le texte a fait sans arrêt la navette entre nous deux, et chacun est intervenu sur des différentes parties du texte. Hein.
Alors, dire aussi...
On n'était pas d'accord, ou alors il fallait qu'on précise les choses. On était généralement le plus souvent d'accord, mais on voulait quand même affiner ou modifier. Vous voyez, bon, c'est un travail normal entre co-auteurs.
Mmh. Alors, d'un autre côté, on sait que vous êtes photographe.
Oui.
Alors, oui. Il y a donc une intervention, une troisième intervention, un troisième larron dans l'histoire, c'est la vue. Alors, pour un photographe, c'est un état d'âme, un état de conscience de cadrer, de trouver l'ombre qu'il faut. Ça aussi, c'est, est-ce que, quelque part, vous n'avez pas vu une intrusion, un rapport avec la vue, quelque part. La voix, le parfum, la vue.
Moi, je dirais que le point commun, c'est l'observation. C'est-à-dire que je suis un grand observateur. J'observe tout le temps. D'ailleurs, vous savez que c'était une leçon de Léonard de Vinci. Hein, il conseillait à ses amis artistes de regarder, d'observer. Et c'est ce sens de l'observation qui m'a fait aussi découvrir tous ces exemples de synesthésie qui avaient échappé à tout le monde.
Mmh. Synesthésie, l'étymologie, c'est quoi? Anesthésie, ça veut dire qu'on ne sent plus rien. Et synesthésie, c'est quoi?
Ça signifie avec, et l'esthésie, voilà. Ce sont les sens. Donc, un sens avec un autre.
D'accord, très bien. Est-ce que donc vous êtes à Quimper, oui. Et vous faites des expositions? Comment est-ce que certainement vous êtes très impliqué dans la vie de votre ville de façon culturelle? Alors comment est-ce que vous faites vivre cette maison de Max Jacob? Est-ce que il y a des conférences? Qu'est-ce qui se fait autour?
Là, c'est une maison des illustres, hein, donc qui a obtenu ce label prestigieux. Et effectivement, il y a ce fonds-là que j'ai constitué, puis j'organise des tables rondes, des conférences, notamment Hélène Henry, qui sont sa plus grande spécialiste, qui a 98 ans et qui a consacré sa vie à Max Jacob. Et je fais le maximum pour que les Quimpérois puissent comment dirais-je, apprécier cette femme et son érudition jacobienne.
Est-ce que vous avez découvert des talents contemporains, la jeune création? Est-ce que il y a un public pour cette maison de Max Jacob? Vous dites la maison des illustres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part le fond? Est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui est mis en exergue à part Max Jacob dans cette maison?
Max Jacob a accueilli dans cette maison Picasso, Christian Dior, Charles Trenet. Donc, c'est tout à fait extraordinaire de penser que dans les années 30, tant de gens mondialement connus soient venus dans cette maison. Et donc, effectivement, quand on parle de Max Jacob, on parle aussi de Picasso, on parle aussi de Christian Dior, on parle aussi de Charles Trenet. Il y a énormément de touristes espagnols qui viennent dans cette maison pour Picasso. Parce qu'encore une fois, c'est Max Jacob qui a découvert Picasso. Il a été le premier à le repérer. Picasso est arrivé à Paris de 19 ans. Et Max Jacob l'a immédiatement repéré, mais immédiatement. Il a dit à ses amis, j'ai vu un ange, et l'ange en question, c'était Picasso. C'est quand même tout à fait extraordinaire.
Oui, c'est pratiquement un coup de foudre.
Non, c'est oui, certainement, oui. Et c'est quelqu'un qui avait ce don-là. Au fond, c'était presque un prophète, hein, Max Jacob. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, quand vous avez découvert à la fois Picasso, Christian Dior, Charles Trenet et combien d'autres, c'est tout à fait fascinant.
Oui.
Alors, il avait réellement un don de prophète, là.
Quelle musique me conseilleriez-vous pour illustrer vos mots? Et par rapport à quel parfum est-ce que cette musique pourrait évoquer chez les auditeurs? Quel parfum voudriez-vous qui puisse émaner de notre interview? Et par rapport à quelle musique?
Beaucoup de musiciens ont senti, cette proximité entre le son et l'odeur. Debussy, par exemple, je commencerai par Debussy. Et Liszt également. Il y a un témoignage de Liszt que je trouve absolument extraordinaire. Si je peux me permettre d'en parler, de l'évoquer. Liszt se trouve en Bohème. Il entend un chant qui le séduit énormément. Un chant populaire, un chant de Bohème. Et il dit qu'en l'écoutant, il sent un parfum balsamique. Vous voyez, c'est très précis, hein. Il sent un parfum balsamique. Alors, encore une fois, il entend un chant. Alors, il s'empresse d'ajouter, tout se passe comme si tous les sens étaient concentrés dans l'oreille. Donc, il y a ce constat, il fait cette expérience, il a le besoin de rajouter ce qui est presque une constatation d'ordre neurophysiologique. Vous voyez, tout se passe comme si tous les sens étaient concentrés dans l'oreille.
Alors, nous prenons quoi comme morceau de Liszt?
Oh, ça pourrait être Debussy, hein. Vous pouvez prendre, je pense, n'importe quoi de Debussy. Comme il était très sensible à cette synesthésie-là, je pense que n'importe quel morceau de Debussy pourra convenir.
Alors, Bruno Fourne, il y a une question que j'aurais aimé vous poser narcissiquement ou avec curiosité. Qu'est-ce que vous sentez comme odeur quand vous m'entendez parler?
Eh bien, je dirais que c'est à la fois un parfum hespéridé et un parfum floral. Un parfum qui renverrait à la fois aux agrumes et au jasmin, hein, notamment, et au lys. Mais surtout le jasmin.
Jasmin, bah écoutez, vous tombez pile poil parce que mon parfum, je vais le dire, mais je ne suis pas fidèle, c'est-à-dire que je peux changer. Et mon parfum actuellement, c'est fleur de jasmin, fleur d'oranger de Serge Lutens. Voilà.
Vous voyez, c'est intéressant. Donc vous êtes allé droit à ce parfum? Pourquoi avez-vous choisi ce parfum ?
J'ai choisi ce parfum parce que je suis folle de jasmin et quand j'écris, j'adore l'idée, cette idée justement océanique de jasmin, d'atmosphère chaude du soir, avec oui. Les lumières qui sont un petit peu tamisées, mais qui sont là tellement perçantes et brillantes dans ce ciel méditerranéen d'où je viens. Donc ce parfum, c'est une atmosphère, c'est ambiance, mais je peux très bien aller vers des parfums plus pointus, plus charnels que les fleurs d'oranger. Mais en Serge Lutens, j'ai trouvé un compositeur très intéressant. J'aime aussi son parfum Louve avec l'amande amère. J'aime Serge Noir qui a du poivre noir. Donc de Serge Lutens, j'aime beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup de Guerlain.
Oui, mais comme je vous comprends.
Voilà.
Mais ce sont les plus grands, hein, Lutens et Guerlain, effectivement, ce sont de merveilleux compositeurs de parfums.
Avec un souvenir, mais inconsolable, d'un parfum qui n'existe pas, qui n'existe plus, que je ne peux plus retrouver, c'est Ivoire de Balmain. Vous connaissez ?
Oui. Mais on peut retrouver ce parfum à l'osmothèque de Versailles, heureusement.
Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a dedans qui me fascine tant ? Ivoire de Balmain.
Oui, mais ce serait intéressant que vous posiez à vous-même la question aussi.
Oui. Eh bien, je pense qu'il doit y avoir une odeur de chewing-gum.
Oui.
Chewing-gum rose, un truc de bonbon.
Le côté enfantin, peut-être.
Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, oui. Ce fut très passionnant. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous reparler à propos d'autres parutions, ou même si vous avez envie d'évoquer Max Jacob, ou bien un créateur contemporain ou autre, avec plaisir.
Donc, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur Max Jacob. Hein.
Ah oui.
Qui est un personnage malheureusement un peu oublié maintenant, mais qui a été un des acteurs de la vie culturelle au XXe siècle. Hein. Et, à vrai dire, ils sont partagés la vie culturelle, Jean Cocteau et Max Jacob. Et Max Jacob a été au centre de la vie culturelle. Il a connu tout le monde et il a découvert tout le monde.
Ouais, et il est mort en camp de concentration en 1944.
Bah je vis dans une maison où toute la famille était décimée dans les camps. Mmh. Son frère, ses sœurs, enfin tout le monde. Et lui est mort à Drancy.
Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Bruno Fourne, pour la présentation de ce livre, Le parfum et la voix, une rencontre inattendue qui paraît aux éditions d'Il Jacob. Ça a été écrit avec Annick Le Guerrer. Merci beaucoup.
Merci Solange Chouchana.
Merci, au revoir. Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.